un podcast France Culture.
Alexandra Delbo, bonjour. Avec une question ce matin, une question que vous vous posez, vous, derrière votre poste de radio. Comment les dinosaures théropodes sont-ils devenus géants tout en restant bipèdes? Oui. Voilà, eh bien, Alexandra Delbo va répondre à cette question.
Les théropodes, vous en connaissez plein et vous en verrez peut-être même aujourd'hui. C'est une immense clade d'animaux, donc un très grand groupe qui comprend les oiseaux actuels, mais aussi de gigantesques espèces disparues que vous ne verrez pas aujourd'hui, à moins que vous regardiez Jurassic Park. Comme le T-Rex. Donc, ce qui saute aux yeux chez les théropodes, c'est qu'il y a de tout. Des gros et des petits. Si on imagine aisément pour un oiseau de quelques centaines de grammes de tenir sur deux pattes, c'est une question plus mystérieuse pour la mégafaune. Pourquoi les gros théropodes ne sont-ils pas passés sur quatre pattes? Et comment faisaient-ils pour tenir debout? Romain Pintor est paléontologue, anciennement affilié au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et au Royal Veterinary College de Londres. Il est le premier auteur de cette étude paru dans Paléobiology.
Les théropodes, donc, c'est un groupe de dinosaures qui sont caractérisés par une bipédie exclusive, donc c'est des animaux qui marchent que sur deux pattes. C'est le seul groupe de dinosaures qui a survécu il y a 66 millions d'années. Donc ça, c'est un détail important puisque les oiseaux que nous connaissons actuellement sont des dinosaures théropodes. Et donc, on se retrouve avec un groupe qui va être extrêmement diversifié, donc non pas en termes de locomotion, mais en termes de taille, puisqu'on va avoir des petits dinosaures théropodes de 150 grammes et des grands dinosaures théropodes, type Tyrannosaurus rex par exemple, qui va peser 8 tonnes, et donc globalement qui porte le poids d'un éléphant uniquement sur deux pattes. La grosse question, elle va vraiment être centrée autour de la masse, parce que dans le groupe des théropodes, on va avoir donc l'évolution d'une taille gigantesque, et en fait, cette évolution du gigantisme, ce n'est pas un seul événement unique, mais ça va arriver à plusieurs occurrences de manière complètement isolée. C'est-à-dire qu'on a plus de 10 familles de dinosaures théropodes qui vont indépendamment devenir des géants à partir d'un ancêtre de petite taille.
Il y a donc eu dans l'évolution différentes façons d'atteindre ces tailles et masses énormes. Et pour le comprendre, on peut transposer cela au vol d'oiseaux. Les oiseaux, les chauves-souris et les ptérosaures peuvent tous voler. Pourtant, leurs ailes sont différentes. Donc, ils se sont adaptés différemment au cours de l'évolution pour aboutir à la même fonction. Mais est-ce le cas pour la bipédie des gros théropodes? Est-ce que leurs os se sont adaptés différemment pour leur permettre de soutenir ce poids?
Alors, pour répondre à cette question, il faut tomber sur un os.
Sur plusieurs, même pour comparer précisément leur forme. Cette nouvelle étude a eu recours à de la morphométrie géométrique 3D. Un terme un petit peu barbare qui consiste à créer un modèle numérique à partir de fémurs en dur. Et pour ça, il faut des os, un scanner et un ordinateur. Et donc, ce qu'aurait dû faire ce chercheur, c'est parcourir le monde, de musée en musée, de laboratoire en laboratoire pour scanner toutes les familles de théropodes géants. Mais patatras, pandémie de Covid et confinement, impossible de voyager. La chance qu'il a eue, c'est que d'abord, ces dinos sont populaires et donc beaucoup de leurs fémurs avaient déjà été scannés et ensuite, de très nombreux scientifiques ont accepté de collaborer et de partager ces scans, ce qui a permis de regrouper un échantillon de fémurs de 68 espèces de théropodes appartenant à 7 lignées différentes. Et résultat, pour ces animaux bipèdes, il n'y avait qu'une façon de s'adapter au gigantisme.
On a découvert que tous les fémurs de ces dinosaures théropodes se sont adaptés exactement de la même manière à une augmentation de la masse. Donc, c'est-à-dire que dans notre échantillon, on a quand même 7 familles dont on a un animal au moins qui va dépasser une tonne de masse corporelle. Donc, vous imaginez déjà porter une tonne en marchant que sur deux pattes. Et à plus de 7 reprises, le fémur s'est adapté exactement de la même manière à cette augmentation de masse. Donc, c'est quand même assez fou. Les différentes choses qu'on va voir sur le fémur, globalement, évidemment, le fémur va devenir plus robuste pour pouvoir supporter plus facilement le poids et également mieux gérer les contraintes de force de muscle lorsque la jambe se déplace. On va avoir aussi la migration d'une attache musculaire. Donc, c'est vraiment une petite crête qui est essentielle d'ailleurs pour reconnaître un dinosaure qui va se situer à l'arrière du fémur. Et donc, sur cette crête, on a les muscles qui s'attachent entre la jambe et la queue. Donc, c'est central dans la locomotion et l'équilibre de ces animaux. Et cette petite attache, en fait, elle va migrer vers le bas de l'os plus l'animal est grand.
C'est ce qui est appelé une convergence évolutive. Toutes les adaptations convergent. La suite de ces travaux, ce sera de continuer à mieux comprendre les caractéristiques anatomiques des 10 000 espèces de théropodes, mais aussi de se servir de ces résultats pour résoudre la locomotion d'autres dinosaures pour lesquels on a souvent du mal à trancher quant à leur bipédie ou quadrupédie.
Bon, vous voulez pas faire le bruit du T-Rex qui se réveille ?
Très peu. Merci.
Moi, je peux le faire. Ah !